Avec la vague de froid que traverse la France actuellement, il est difficile de se maintenir au chaud, encore plus lorsque l'on doit dormir dans la rue sans moyen de se réchauffer. C'est pour cela que des plans grand froid ont été mis en place ces dernières années en France pour limiter le nombre de décès liés aux très basses altitudes. À Clermont-Ferrand, des centres d'accueil sont chaque année ouverts pour accueillir les personnes dans le besoin. C'est le cas du collectif Partage et Projet, créé en 1985 suite à un hiver particulièrement rigoureux en Auvergne. Sa directrice Lorraine Henry est avec nous aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Alors merci d'être avec nous sur RVA pour parler du sujet des hébergements d'urgence, ô combien important hein, dans la période actuelle. Dimanche dernier, le gymnase des Cézeaux a été transformé en centre de mise à l'abri avec une cinquantaine de places. Comment ça s'est déroulé? Comment ça s'est organisé au départ pour ouvrir ce nouveau centre?
Alors, les services de la préfecture, donc l'ADEPS avec qui nous travaillons étroitement, nous a contactés en fin de semaine pour nous annoncer que nous allions certainement ouvrir le gymnase selon les températures. Alors, c'est notre spécialité, si je puis dire, sur l'association, puisque ce n'est pas la première fois que nous ouvrons un gymnase. Donc nous avions eu le temps de nous préparer et d'organiser les arrivées. Dimanche soir, à 17h, le gymnase s'est ouvert et les premières orientations 115 ont été accueillies.
Globalement, vous avez accueilli à peu près combien de personnes depuis dimanche ?
Alors là, on en est à une vingtaine de personnes. Petit à petit, hein, le temps aussi que les personnes soient au courant qu'il y a ce dispositif et puis sollicitent le 115 et puis voilà, qu'on puisse les orienter. Et puis après, voilà, ils sont orientés une semaine ou plus selon les besoins.
Donc après, certains restent sur place, c'est-à-dire ils sont du coup hébergés pour une nuit ou pour plusieurs jours, je ne sais pas.
Pour l'instant, ils sont tous hébergés jusqu'à vendredi. Tous ceux qui se sont manifestés sont hébergés jusqu'à vendredi. On attend les retours de la DETS, en tout cas de la préfecture, pour nous signaler s'il y a maintien ou continuité de ce service. Si le froid persiste, le gymnase sera ouvert tout le week-end et ainsi que la semaine prochaine, certainement.
Bien sûr. Alors, c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas spécialement de retour, en tout cas, des températures, on va dire... normal, je dirais, on reste dans des températures négatives pour la nuit. Lorsqu'elles se présentent, voilà, ces personnes viennent vous voir. Vous devez un petit peu voir un peu quels sont leurs besoins, si elles ont besoin juste d'accompagnement ou d'un lit ou de quelque chose pour se réchauffer.
Alors là, c'est vraiment que de la mise à l'abri. D'accord. Là, on en est vraiment à de la survie, si on peut parler comme ça. C'est-à-dire que là, c'est vraiment pour pas dormir dehors. Donc le gymnase est ouvert de 17h à 10h le lendemain matin et l'orientation n'est faite que après appel au 115. C'est le 115 qui est à la main, si je puis dire, de ces places et qui oriente les personnes. Si quelqu'un arrive au gymnase sans être orienté, bien entendu qu'on ne va pas la rejeter, mais par contre, on lui fera faire le 115 pour qu'elle soit enregistrée. Une fois arrivée, on leur permet de pouvoir boire quelque chose de chaud et de s'installer. L'installation est très précaire, hein, c'est des lits picots, une couverture, un oreiller voilà, et de quoi manger.
Globalement, le premier contact que vous avez eu, c'est plutôt un accompagnement psychologique, finalement, pour les rassurer peut-être et leur donner, pas forcément, plutôt leur réchauffer psychologiquement que, on va dire, physiquement au départ.
Oui, après, on connaît quand même pas mal de personnes déjà, puisque l'association gère un accueil de jour et une maraude aussi qui est à l'année. Donc, on travaille quotidiennement avec les gens de la rue. Donc, ceux qui sont orientés par le 115, très souvent, on les connaît déjà. Donc là, ce dispositif n'est vraiment que de la mise à l'abri. Donc, on ne va pas faire d'accompagnement social sur le site. Mais par contre, il y a un vrai relais possible avec nos autres services, dont l'accueil de jour qui est vers la maison des sports.
Et j'imagine un suivi après sur le long terme, sur plusieurs jours, semaines, mois, selon les besoins.
Voilà, selon les besoins de la personne, tout à fait.
Alors, il y a bien sûr ce centre d'hébergement au Cézeaux qui a ouvert. Il y en a d'autres, peut-être à Clermont-Ferrand. Quels sont-ils? Est-ce que vous pouvez un petit peu nous les localiser?
Alors, il y a trois hébergements d'urgence comme ça qui accueillent en semi-collectif. Un qui est accolé à ce gymnase d'urgence, qui est les Landais. Donc, c'est un hébergement d'urgence qui accueille 70 personnes, que ce soit des hommes, des femmes ou des couples, avec animaux, puisqu'on accueille aussi les personnes avec leurs animaux, qu'ils en aient un, deux ou trois.
Oui, voilà.
On accueille tout le monde. Il y a un autre établissement qui est plus vers Montferrand et un autre qui est à Cournon, qui accueille principalement des familles. Là, par contre, il n'y a pas d'animaux, mais ce sont des familles avec des enfants. Donc, voilà.
Globalement, vous pouvez accueillir un maximum combien de personnes par centre ou au total?
Alors, chaque soir, le collectif Partager Projet accueille environ 400 personnes et héberge 400 personnes, que ce soit sur les différents établissements que je viens de nommer ou alors sur différents dispositifs qui sont plus dans le diffus, sur des appartements que nous louons à des particuliers sur Clermont. Donc, on a à peu près 70 apparts voilà, que nous avons en location.
Si je puis dire, vous êtes complet tous les soirs en ce moment?
Oui, on est complet tous les soirs. Alors, sur les appartements, c'est plutôt de la longue durée. Autant sur les hébergements d'urgence, ça peut être un mois, deux mois et selon après, plus s'il y a besoin. Mais sur les appartements, c'est des accompagnements plus longs, plus pérennes. Et l'idée, c'est de pouvoir travailler vraiment l'insertion professionnelle, mais pas que. C'est aussi l'insertion dans le logement. C'est leur permettre de réapprendre à habiter et à vivre seul.
Bien sûr, une réinsertion sociale un peu globale, hein, finalement.
Voilà, c'est ça.
Très bien. C'est pour les appartements, c'est surtout des familles qui sont en demande ou vous pouvez également voilà, avoir des personnes seules qui ont accès à ces appartements?
Alors, ça reste encore de l'urgence, donc ça passe toujours par le 115, quand c'est de l'urgence dans tous les cas. Et ça peut être des familles, effectivement, avec des enfants ou des isolés, des personnes seules ou des couples. C'est vraiment, on a tout type de typologie d'accueil. Après, on a des dispositifs qui sortent de l'urgence. Alors après, c'est très spécifique avec un dossier SIAO, voilà, qu'il faut pouvoir monter avec des assistantes sociaux et qui permettent d'avoir un logement plus pérenne. Mais voilà, donc notre association fait partie de tout ce réseau de partenaires du social qui peut amener ces personnes à se réintégrer.
Pour revenir peut-être sur une dimension un peu plus régionale, l'Auvergne est, par rapport à d'autres régions, particulièrement touchées, en tout cas par les vagues de froid et donc par les besoins en hébergement d'urgence.
Oh, je pense qu'il fait froid partout.
D'accord, oui. Il y en a plus, en tout cas, d'urgence qu'ailleurs.
Non, après, on n'est pas la ville où il y a plus de monde dehors. Mm. Il y a les grandes villes, les grandes métropoles, telles que Lyon, Marseille, Paris, qui ont beaucoup encore plus de monde dehors. Alors nous, c'est vrai que ce phénomène s'accentue. Avec plus de femmes, avec plus de personnes avec des troubles psychiatriques ou des handicaps ou des pathologies particulières, des familles également. Mais nous sommes une ville très accueillante à Clermont et c'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui viennent, mais on n'a pas forcément beaucoup de monde dehors. Enfin, on a du monde dehors, mais par rapport à des grandes métropoles, effectivement, c'est... Voilà,
Bien sûr, c'est plutôt limité par rapport à Lyon ou...
Oui, voilà, c'est au prorata, enfin c'est vraiment, comment dire, en lien au prorata de la grandeur de la ville, effectivement, oui.
Qu'est-ce qui se passe du coup quand vous devez refuser quelqu'un parce que vous n'avez tout simplement plus de place?
Eh bien, on prend sur soi et on refuse. Ouais. C'est-à-dire que effectivement, sur nos hébergements d'urgence, ils sont ouverts 24 sur 24. Donc il arrive sur certains sites en plus où c'est à ciel ouvert où voilà, il y a juste un portail, il y a juste à sonner. Il arrive fréquemment où les personnes viennent réclamer un hébergement. Nous refusons, malheureusement, puisque nous ne pouvons pas surcharger nos équipements, puisqu'il n'y a plus d'accueil digne et qu'on ne maintient plus la sécurité de nos établissements. Mais par contre, on les encourage à continuer à appeler chaque jour le 115 pour qu'un jour, une place se libère et qu'ils puissent y avoir accès. Alors, quand la personne n'a pas de place pour le soir même et qu'elle va dormir dehors, effectivement, nos salariés, nos veilleurs peuvent donner des couvertures ou des cafés ou des choses qui peuvent les aider à passer la nuit.
Bien sûr. En tout cas, vous êtes toujours dans l'accompagnement, c'est-à-dire que vous dites, voilà, toujours dans le rapport humain, évidemment, on s'en doute bien.
Oui. Et puis, il y a la maraude aussi. La maraude a aussi des signalements et elle peut aller à la rencontre de ces personnes, même si elle ne va pas forcément leur permettre de se faire héberger. Mais par contre, elle va amener aussi peut-être un sac de couchage, une petite boisson chaude, une soupe, de quoi manger. Enfin, voilà. Donc, et puis, du rapport humain aussi.
Oui. C'est-à-dire que, discuter avec eux.
Voilà. Et puis, les considérer et peut-être les revoir en journée aussi, puisque la maraude travaille la journée et va à leur rencontre la journée. C'est ce qui permet aussi de travailler après un accompagnement plus pérenne.
Bien sûr. Ouais. Alors, si on peut revenir justement sur l'année 2023, est-ce que vous auriez un bilan peut-être à faire? Est-ce que c'était une année plus rude que d'autres par rapport à 2022 ou une année Covid, je ne sais pas?
Alors, je dirais que les années Covid ont été très riches pour nous, puisque tout le monde était hébergé, personne dehors. Tout le monde était déstabilisé sur les places, donc il n'y avait pas beaucoup de mouvements, D'accord. Et éviter que le virus circule aussi. Hein.
Bien sûr, entre
donc,
eux.
Donc, ça a été très positif. Ça a permis de créer des places. Voilà, l'État a vraiment joué le jeu, si je puis dire, et essaye chaque année hein, de créer de nouvelles places plus pérennes. Mais effectivement, depuis cette fin, enfin, je ne sais pas si on peut dire fin de Covid, mais cette atténuation de troubles et de... Voilà, et ben, y a plus en plus de gens dehors. Puisqu'effectivement, beaucoup sont hébergés aussi à l'hôtel par le 115, mais l'État réduit quand même ses coûts à l'hôtel qui coûtent très cher.
Bien sûr.
De plus en plus de personnes se retrouvent dehors. Le bilan sur 2023, c'est pour nous, association, c'est plus de monde dehors, plus de monde sur notre accueil de jour, puisque chaque jour, il y a quelques années, on distribuait à peu près 100 repas, 100 déjeuners par jour. Et là, on a eu des pics à plus de 270 personnes qui sont venues manger sur notre établissement. Donc, ça montre quand même une difficulté particulière.
Bien sûr. Alors, sans être dans l'attaque directe, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, le président de la République, Emmanuel Macron, avait dit qu'il ne voulait plus voir, entre guillemets, de sans-abri dans les rues. On est loin de l'objectif, on est d'accord.
Enfin, ah oui. Et puis, l'objectif ne sera jamais atteint si on ne crée pas de nouvelles choses.
Ouais.
En fait, beaucoup de personnes sont à la rue. Alors, moi, je ne peux parler que de Clermont-Ferrand, mais sur les grandes métropoles, on voit bien aussi la population qui est à la rue. En tout cas, pour Clermont-Ferrand, il y a beaucoup de personnes avec des troubles psychiatriques, non stabilisés. Il y a beaucoup de personnes sans papier, des jeunes hommes ou certaines femmes qui sont sans papier et qui, du coup, ne sont pas prioritaires, si je puis m'exprimer ainsi, sur un hébergement. Mais effectivement, les personnes qui refusent l'hébergement ont très souvent des troubles psychiatriques qui nécessiteraient soit de nouvelles structures adaptées, soit l'augmentation de places sur des structures qui pourraient les accueillir, avec, avec du médico-social ou du sanitaire.
Oui, bien sûr, pour avoir un accompagnement psychologique et psychiatrique même, oui. Pour certains, parce que les troubles sont ancrés, enfin...
Parce que certains ont des pathologies psychiatriques non stabilisées, qui sont pas forcément, qui n'ont pas forcément envie de se faire soigner pour des raisons lambda, mais qui pourraient se travailler. Mais pour ça, il faudrait avoir des places. Quand vous voyez que sur Clermont-Ferrand, à 2027, il y aura 100 ou 150 lits en moins en psychiatrie, et à un moment donné, les gens vont bien devoir aller quelque part. Et nous, effectivement, on a beaucoup de troubles psychiatriques qui refusent d'être pris en charge parce qu'ils ne sont pas stabilisés.
Ça vous inquiète, peut-être, pour 2024
Ça, le besoin de lier les deux mondes sociaux, ou les trois mondes, si je peux dire, social, sanitaire et médico-social, me semble primordial. Tant qu'on ne le fait pas, tant qu'on ne travaille pas de manière plus conjointe, on va louper des choses et des parcours. Et c'est ce qui fait que des personnes resteront dehors parce qu'elles n'ont pas une prise en charge optimale.
Bien sûr. Vous aviez, je lisais l'une de vos interviews, on regardait un petit peu l'une de vos interviews, pardon, que vous aviez un projet apparemment d'accompagnement un peu plus spécifique pour les femmes seules avec bébé.
Oui.
Où en est ce projet? Est-ce que vous avez pu le concrétiser?
Oui. On est très contents de ce projet puisqu'il n'en existe pas sur le territoire, sur Clermont et Métropole. En fait, tout part d'une rencontre où la Maraude avait rencontré un couple avec sur Rion, une femme enceinte en début de grossesse et son compagnon, et ils avaient 11 animaux, chiens, chats, rats, etc. Et donc, aucune structure, même nous, qui sommes heureux de pouvoir accueillir des animaux, personne n'était en capacité d'accueillir autant d'animaux. Donc, la vraie question, c'était qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme enceinte qui va vivre sa grossesse et sa parentalité dehors, la situation nous était compliquée. Alors, est-ce mon statut de jeune mère qui fait ça, mais qui m'a touchée? Il n'empêche qu'on a eu la chance de pouvoir répondre à un appel à projet qui créait des places pour des femmes en pré ou post-maternité, sans logement ou sans hébergement. Donc, comme l'idée avait déjà germé dans notre tête association, on a postulé et on a eu ces places. Donc, effectivement, on a créé alors, c'est une structure qui en diffuse, c'est-à-dire que c'est dans des appartements pour leur permettre d'être autonomes aussi, de travailler l'insertion. Donc, on a 15 appartements qui hébergent chacun une femme, son bébé né ou à naître, et le partenaire, et toute la famille s'il y a d'autres enfants. Et on a axé vraiment l'accompagnement sur la parentalité, pour qu'un lien sain, si on peut le développer, secret entre la mère et l'enfant. Donc, c'est il s'appelle Home, ce service.
D'accord.
Donc, c'est hébergement d'accueil d'urgence mère-enfant.
OK.
Donc, on a fait un petit jeu de mots.
Oui, carrément.
Et on a mis en place une équipe pluridisciplinaire, plus importante que ce que nous avions à côté, avec du psychologue, de l'auxiliaire de puériculture pour apprendre à la mère à s'occuper de l'enfant. Une TISF, une technicienne d'intervention sociale et familiale, pour apprendre au foyer à s'autonomiser, à mieux gérer son argent, à se débrouiller, et une éducatrice spécialisée. D'accord. Donc c'est une grosse équipe, malgré
bien
tout, pour notre association, qui se spécialise vraiment dans le travail de la parentalité. Donc c'est vrai que ça nous tient à cœur, puisqu'on a pu développer du partenariat avec la PMI, puisqu'il est important de pouvoir travailler quand même sur le côté infantile. Et voilà, donc ça, c'est un beau projet et on a de beaux espoirs.
Pour cette année, en tout cas, de le développer peut-être encore plus.
De continuer, oui, tout à fait, oui. Oui, de le continuer.
Très bien. Vous avez donc des missions, disons, étatiques, forcément,
oui,
avec le contexte actuel. Au niveau des finances du collectif, est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut également aider? Est-ce que des dons sont possibles?
Oui. Alors, ça aurait été l'année dernière, je vous aurais dit oui, ça va, on s'en sort. Mm-hmm. Là, cette année, pour 2024, c'est quand même très pessimiste.
D'accord.
Parce que ce soit les fluides, l'énergie, l'alimentaire, on a quasiment doublé en dépenses.
En termes de coûts, oui.
Voilà, en termes de coûts, en termes de masse salariale, puisque même si c'est une bonne chose, le SMIC a augmenté beaucoup ces derniers temps, sans aide, forcément pour l'employeur.
Bien sûr.
Donc, tout cumulé fait que notre association part avec des difficultés financières. Alors, comme d'autres, hein, on n'est pas les seuls, voilà, c'est pas une surprise. Donc, effectivement, notre financement est principalement d'État.
Mm-hmm.
Comme effectivement, les missions sont d'urgence, c'est l'État. Après, nous avons un financement de la Fondation Abbé Pierre, puisque notre accueil de jour est Boutique Solidarité Fondation Abbé Pierre. Statut auquel on tient vraiment, puisque au-delà du financement, c'est vraiment un apport de partage, d'information et de soutien de la Fondation Abbé Pierre. Donc, on est très heureux de pouvoir faire partie de cette grande famille. Le département aussi qui nous finance un petit peu, et le CCAS, puisque nous avons une mission de domiciliation, nous avons plus de 3500 domiciliés sur notre adresse au niveau de la rue Émilienne Goumi.
Vous avez aussi des bénévoles, parce que vous parlez de salariés, mais est-ce que vous avez des bénévoles aussi
Oui, tout à fait. Alors, nous avons presque 70 salariés et plus de 50 bénévoles. Et effectivement, c'est un gros chiffre, puisque les associations aujourd'hui peinent à recruter du bénévolat. Et nous sommes très heureux, puisqu'on ne pourrait pas fonctionner sans eux. Donc, ça me donne l'opportunité de les remercier encore une fois. Donc, beaucoup de bénévoles qui font la maraude chaque soir, puisque la maraude part avec un éducateur et deux bénévoles chaque soir. Donc, ça ne pourrait pas tourner.
Ça fait des bonnes équipes,
oui. Oui, oui, ça fait des bonnes équipes, des gens qui travaillent, qui sont actifs la journée et qui, le soir, à 18h30, vont faire la maraude vraiment pour la bonne action. Et c'est des gens qui vraiment nous sont fidèles depuis des années donc, et qui ont créé un lien avec les gens de la rue. Donc, c'est vraiment très riche. Il y a l'accueil de jour qui, chaque jour aussi, accueille des bénévoles pour nous aider, pour la fabrication des repas, pour la blanchisserie, puisque... Toute personne peut venir laver son linge pour 1 euro.
D'accord.
Ensuite, sur Cournon, des bénévoles qui aident aussi pour l'aide aux devoirs, pour travailler la langue française. Voilà.
D'accord.
Donc, c'est vrai que... Et puis, notre conseil d'administration qui est dans tous les cas
bien
bénévole.
Sûr.
Mais effectivement, nous sommes très heureux d'avoir autant de bénévoles très investis dans l'association.
En tout cas, à l'échelle du Puy-de-Dôme, ça fait une bonne équipe, on va dire.
Oui, tout à fait. Oui. Et encore, nous sommes une petite association.
Oui, par rapport à d'autres, j'imagine. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024, dans les vœux, je ne sais pas, pour 2024?
Alors, qu'il y ait plus de structures accueillantes pour les gens de la rue. Pas forcément nous, hein, que ça se développe. Moi, je ne veux pas forcément que ce soit le collectif Partager Projet qui gère tout, au contraire. Plus de liens avec les partenaires du soin, ça c'est sûr. Que l'État puisse améliorer nos financements aussi.
Bien sûr, hein, évidemment.
Et pourquoi pas, effectivement, des dons de particuliers. Nous sommes toujours à la recherche d'appartements pour pouvoir les louer à l'année et après pouvoir installer quelqu'un pour travailler l'insertion ou du don financier qui sera dans tous les cas au service de la personne dehors, que ça soit pour acheter des vêtements chauds, des duvets, enfin voilà, on a de quoi faire, ou des couches même aux enfants, enfin voilà.
D'accord.
Donc il suffit d'aller sur notre site internet, de chercher le collectif Partage et Projet, et après sur le site, il y a un don en ligne qui est très facile et très rapide. Donc,
Je reviens juste sur, on peut faire des dons physiques, c'est-à-dire de couches, comme vous l'avez dit, de produits.
Oui, tout à fait.
Alors, peut-être pas alimentaire, je ne sais pas jusqu'où
non.
ça peut aller, mais
alimentaire non, puisque quand
hygiène
même,
surtout.
Voilà, surtout hygiène ou alors vêtements. On a beaucoup de personnes qui, enfin beaucoup, on a des personnes qui nous amènent des vêtements ou des couvertures. On a même un groupe de personnes à la retraite, de femmes à la retraite, qui nous tricotent chaque hiver des petites couvertures, layettes pour les enfants. Donc merci et continuez. Elles sont distribuées voilà chaque année.
Et ben merci beaucoup en tout cas Lorraine Henry d'avoir.
Merci à vous.
Pris un petit peu de temps pour RVA, voilà, vous êtes donc la directrice du collectif Partage et Projet, et on vous souhaite bien sûr bon courage pour cette saison hivernale qui s'annonce
Merci.
Rude, disons-le. Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.